Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com. Aube, épisode 4.
À notre époque, approximativement 1 million de personnes sont suspendues dans le ciel entre deux destinations.
Peut-on appeler cette zone hors frontière un nouveau territoire?
Comment aborder cette migration sans précédent dans l'espèce humaine?
Qu'est-ce qui pousse tous ces gens à aller voir ailleurs s'ils y sont?
Quel impact est-ce que tout ça a sur nos relations avec les autres et notre perception de nous-mêmes?
Dans ce quatrième épisode, Hope s'est penché sur le désir d'explorer le monde et de repousser le terrain incognita.
Bref, sur les merveilles du voyage, les stratégies pour voyager autrement, l'impact de voyager sur notre perspective du monde, l'euphorie des grandes découvertes et la paix que nous apportent les petits villages perdus. Mon voyage a commencé il y a très très longtemps. Est-ce que c'était mon esprit d'aventure, mon besoin d'espace ou la nécessité de me réinventer? Un jour, je me suis levé debout et j'ai marché dans les savanes d'Afrique. J'ai suivi les rivières et fait un détour par le Moyen-Orient, la Chine et l'Inde. J'y ai vu mille et un trésors, des constructions magnifiques, des objets inconnus. J'y ai inventé des dieux et des déesses, des mythes, des cultures et des rites. J'ai compris que la créativité et l'imagination humaine n'avaient pas de limites. Je suis revenu par les routes de la soie parce que le désir d'échanger est si fort. D'échanger des objets, bien entendu, mais surtout des idées. Ah, l'odeur des épices. Le goût du sucre. Les rencontres entre Bouddha, Aristote et Confucius. Sans oublier les innombrables nuits à la belle étoile, à échanger dans des langues inconnues et à inventer des constellations. J'ai rencontré toutes sortes de gens, toutes sortes de façons de vivre, chacune ayant ses particularités propres. Face à tous ces points de vue, chaque jour, on remet en question notre propre perspective. J'ai fini par me retrouver à Rome, puisque tous les chemins y mènent. L'art et les monuments y forcent l'admiration, les grandes infrastructures nous rappelant que les hommes sont des bâtisseurs. Le rythme de la vie y est donné par l'énergie des foules. Perdu dans ses rues et ses allées, on se sent comme une fourmi dans une fourmilière, où chacun joue son rôle. Mais dans cette grande ville, on a aussi l'impression que tout est possible, qu'on peut y être qui on veut, et y réaliser nos rêves. Appelé par l'aventure, j'ai pris vers le nord, à la suite d'un général et ses légions en conquête. Loin de la ville, la nature reprenait sa domination. Les défis que posent les territoires inconnus nous confrontent à nos limites et nous forcent à nous dépasser. Encore plus que toute construction humaine, les montagnes nous remplissent d'effroi mêlé au respect. Après avoir gravi les plus hautes montagnes d'Écosse, j'étais là des aventures, et j'ai eu envie de me reposer. Assis sur le toit du monde, devant ses étendues, j'ai observé la mer qui me proposait un monde infini de possibilités. Je me suis embarqué sur un grand voilier, guidé par les étoiles vers un nouveau monde, porté par le désir de liberté. Je voulais me réinventer, changer les règles, devenir quelqu'un d'autre. Même une fois débarqué en Amérique, j'ai pas su m'arrêter. J'ai parcouru le vaste territoire où tout semblait possible. J'étais, plus que jamais, un explorateur, parce que j'explorais qui j'étais. Partout sur mon long chemin, j'ai appris à me dépasser, et je me suis constamment redéfini. À chaque fois, j'ai rencontré des vieilles connaissances. Ils avaient pris d'autres chemins que moi et s'étaient confrontés à d'autres défis, animés par d'autres désirs. Leurs histoires avaient peu en commun avec la mienne, mais toutes mises ensemble, elles formaient un tout. Voyager forge notre individualité, mais nous apprend aussi qu'on est lié à l'histoire du monde. Pour l'instant, je suis ici. Mais sur ma route, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que peu importe comment on est arrivé ici, on est tous venus d'ailleurs. La plupart des grandes épopées humaines se sont accomplies d'est en ouest.
De tout temps, l'homme a suivi la course du soleil, s'interrogeant sur le lieu où s'abîmait la boule de feu.
Ulysse, Christophe Colomb, Attila, tous ont cru qu'à l'ouest était la solution. Partir vers l'ouest, c'est vouloir connaître le futur.
Cependant, si certains se sont demandé où allait le soleil, d'autres ont voulu savoir d'où il venait.
Aller vers l'est, c'est vouloir connaître les origines du soleil, mais aussi les siennes propres. Marco Polo, Napoléon, Bilbo le Hobbit sont des personnages de l'Est. Ils pensaient qu'il y avait quelque chose à découvrir là où commencent les journées.
Dans la symbolique des aventuriers, il reste encore deux directions.
Aller vers le nord, c'est chercher des obstacles pour mesurer sa propre force.
Aller vers le sud, c'est rechercher le repos et l'apaisement.
Un texte de Bernard Werber, tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Je suis un petit village anonyme que l'on survole entre la visite de deux grandes villes, où l'on passe pour reprendre un peu son souffle après avoir gravi d'incontournables monuments. Mais je t'en prie, voyageur épuisé de tant d'émerveillement, je t'en prie, arrête-toi. Arrête-toi et sois sans gêne, car je ne serai point vexé si de mon doux nom tu ne te souviens pas, une fois ton chemin repris. Non, voyageur, je ne serai pas froissé si au détour de tes émois tu oublies mon identité, car sous mes airs de rien du tout, moi, le petit village incognito, je sais que mes charmes subtils resteront gravés à jamais dans ton esprit. Ainsi, par un rude après-midi d'hiver, tandis que tu crouleras sous le poids de ton travail, affaissé sur ta table de comptable tout en tremblant face à la froideur du vent du nord, lequel persistera par une fente de ta vieille fenêtre de bureau, tu te surprendras, voyageur, à rêvasser de ma verdure. Moi, le petit village discret, ennobli par sa nature simple et tranquille. Tu te surprendras, laissant en plan tes calculs, ainsi que la fenêtre givrée par l'austère boréal, à oublier tes autres souvenirs d'aventurier. Toutes ces grandes parures à l'effigie du génie humain, des miroirs de Versailles en passant par la grande muraille de Chine et les pyramides d'Égypte. Aucun d'eux ne te reviendra à l'esprit. Chaque fois, c'est pareil. Moi, le petit village sans nom, je vous reviens en mémoire et fais vagabonder votre cœur dans une plénitude sans fin. Vous vous revoyez là, assis dans mon unique parc rempli d'odorantes fleurs sauvages face à mon petit lac. Vous vous revoyez là, en train de manger un sandwich accueillant une douce brise de ce juillet impeccable, tandis que le soleil, complice, projette ses derniers rayons du jour sur les petites maisons jaunes, bleues et blanches aux lucarnes invitantes. Sous mes grands arbres, vous écoutez les oiseaux qui se racontent leur journée et grignotent de ci, de là, les miettes de pain des touristes de passage. De tous ces voyageurs qui, une fois repus, repartiront à la conquête de Paris-Lumière, New York l'électrisante, Venise la plus romantique ou Barcelone la créative, et qui, de retour au bercail, auront des clichés plein la tête et les mains à montrer fièrement aux oncles, aux amis et aux parents. Mais seulement, et toujours moi, le petit village sans âge, je vous reviendrai en mémoire, juste au bon moment, pour donner grâce à vos jours d'hiver sans fin.
Un texte de Caroline Legault, tiré de son recueil « Tricot sacré et autres textiles pour passer l'hiver au chaud ». Avec les vacances, on peut enfin concrétiser nos projets d'évasion. Souvent, on aspire à plus, à du différent. On veut rendre cette expérience deux semaines de congés payés unique. Faire en sorte qu'on s'en souviendra le jour de nos 82 ans. Oui, deux semaines par an. On est chanceux en Amérique du Nord. et si cette expérience durait plus de temps que nos 2 semaines permises par notre entreprise.
Et oui, parce qu'en fait, on remarque plus en plus de gens souhaitent travailler, vivre ou voyager autrement. Le voyage ne fait pas exception à ce goût de renouer avec l'essentiel. Donc là, j'ai fait un petit tour des bonnes idées, des bons plans et des modèles inspirants pour que les 2 semaines, parfois, deviennent 1 mois, 4 mois, 1 an ou plus, histoire d'aller dans un pays ou même carrément d'envisager un tour du monde. Tout d'abord, les voyages, ça peut être un bon plan pour renouer le voyage, le goût de l'ailleurs, avec un centre d'intérêt, que ce soit la musique, la danse, le sport ou les arts. Par exemple, si vous aimez le flamenco, eh bien pour vous, la Mecque, c'est Séville, en Espagne. Pas seulement pour découvrir l'architecture de cette ville parmi les plus belles du monde, ou manger des tapas et voir un show de flamenco dans un tablao pour touristes. Non, si vous allez à Séville pour faire du flamenco, vous allez vous inscrire dans des écoles des plus grands danseurs, partager des cours quotidiens pour un prix dérisoire. Vous allez vous inviter dans des soirées de juerga, des jams autour du flamenco. Idem pour le tango. Si vous aimez cette danse, pourquoi ne pas partir à Buenos Aires, prendre des masterclass tout en découvrant le pays ? Si vous aimez par exemple l'escalade, quand vous êtes grimpeur, la Mecque pour vous c'est Yosemite. Le lien là-bas se fait automatiquement avec les autres puisque le camping est clairement occupé principalement par des grimpeurs de partout dans le monde. Si vous aimez la musique et que pour vous le voyage s'accompagne de quelques notes et de quelques découvertes musicales, vous pourriez profiter d'un été, de 2 mois sabbatiques pour faire les festivals un peu partout dans le monde. Donc c'est vrai qu'ici au Québec, du festival, on en a quand même beaucoup. Mais imaginez partir en Europe et passer d'un festival à l'autre en voyageant. Les moyens de voyager là-bas sont quand même innombrables et pas forcément très chers, que ce soit l'hébergement en camping, en auberge jeunesse ou alors les passes de train qui permettent de passer d'un pays à l'autre. Par exemple, le festival de Trainak. Ce festival se situe en Norvège, sur une petite île où débarque tout le monde juste le temps du festival. Alors imaginez les suitcases, l'équipe technique, les artistes, le public, les bénévoles, tout le monde sur des bateaux qui débarquent sur une île avec 3 mouettes et 2 goélands d'habitude. Le festival de Guča en Serbie aussi. Alors ça, c'est un festival de niche, on va dire, puisque c'est la musique des cuivres des Balkans. Donc si vous avez aimé les films de Kusturica et la musique de Goran Bregovic, vous devez vous rappeler un petit peu ce côté très florissant, très chaleureux de ces fanfares de cuivre des Balkans. Eh bien, pendant quelques jours à Guča, il n'y a que ça. Les nomades digitales, c'est un nouveau terme pour étiqueter ces travailleurs autonomes dont le travail permet de bouger, de travailler de l'autre côté de la planète, notamment en Asie, beaucoup au Vietnam, et en ayant des coûts beaucoup moins importants. Ça suppose quand même un travail qui se fait à distance, hein, si on est plombier c'est peut-être moins facile, mais aussi une bonne connexion internet, et ce qui est quand même parfois difficile à trouver loin des grands centres urbains. Et on peut aussi voyager en se disant, bon, on a un petit fonds, mais on va fonctionner pas mal sur le mode d'échange de services. Le site détourlocal.com en a fait d'ailleurs son credo. C'est une Belge et un Québécois qui voyagent autour du monde. Ils sont tour à tour saisonniers, bénévoles, ils ont travaillé dans les cadres de missions proposées par le Woofing et ils se logent la plupart du temps chez l'habitant ou via des sites d'échange de maisons, le house sitting. Vous pouvez aussi financer votre voyage via le sociofinancement. Je citerai notamment, oui, vous avez le Indiegogo, le Kickstarter, etc. Mais on a aussi Trevolta, qui est peut-être moins connu, mais qui est dédié au sociofinancement de voyage. Quant au Woofing aussi, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une manière en fait de travailler dans un endroit en fait, de participer à la vie, par exemple, d'une ferme bio ou d'une exploitation de lavande. Donc vous participez aux travaux du lieu et en échange vous êtes logé, nourri, blanchi. Si vous voulez aussi voyager d'une autre manière, c'est-à-dire voyager juste pour vous, ça vous intéresse pas, vous avez envie de donner, vous avez envie de participer et de rendre le monde un peu moins moche. Vous pouvez devenir bénévole dans des associations pour le temps que vous passerez dans le pays ou tout simplement de manière ponctuelle. Mais c'est parfois difficile d'y voir clair. Est-ce qu'on doit payer ou pas payer les organismes ? Quels organismes on doit sélectionner pour éviter de tomber dans une arnaque ? Quelle attitude avoir, etc. Si vous cherchez un site pour de bonnes idées de voyage un peu différents, je vous encourage à aller consulter le site voyageons-autremoins.com qui fait la promotion d'un tourisme participatif. Alors, eux, ils le définissent comme étant un tourisme qui fait participer la population d'accueil aux activités touristiques ou qui fait participer les visiteurs à la vie locale du territoire visité. Donc bref, c'est vraiment une autre manière d'envisager l'hospitalité et la découverte de l'autre. Un autre site aussi qui est intéressant, ça s'appelle Le Sac à dos. C'est un site, un blog qui est tenu par Ryan. Alors lui, carrément, totalement roots, il voyage depuis 2008 autour du monde.
En famille, en couple, entre amis, mais bon, parle-moi donc du voyage seul. Est-ce que ça vaut la peine de se lancer?
Bah bien sûr. Moi, je l'ai déjà pratiqué, le voyage seul, et c'est le meilleur moyen pour aller à la rencontre de l'autre. Parce qu'on est obligé de sortir de sa zone de confort, on doit aller vers l'autre, et il en ressort finalement un gain d'ouverture d'esprit évident. On devient beaucoup plus flexible, plus ouvert à la réalité des autres, on se regarde moins le nombril et on fait appel tout simplement à l'aide des autres. Donc on se sent moins tout seul dans notre petit coin.
Même quand on est une femme ?
Oui, alors c'est peut-être que quand on est une fille, faut peut-être parfois faire un petit peu attention. Ni angélisme, ni crainte de tout, on doit quand même prendre certaines précautions. C'est ce qui ressort d'ailleurs de plusieurs blogs, même pratiquement de tous. Il y a des choses à faire et à ne pas faire, que ce soit une fille ou pas d'ailleurs, mais il faut quand même tenir compte des coutumes et des habitudes locales. Donc j'ai découvert un superbe blog d'ailleurs, très bien illustré, utile pour voyager quand on est une femme. Ça s'appelle artdevoyagerseul.com. Elle parle des questions de sécurité, les arnaques, l'organisation, le budget, mais aussi un conseil très 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 utile quand on est une fille, comment gérer sa contraception dans un tour du monde.
Wow, que de bonnes idées. On trouvera le lien de tous ces blogs et tous ces sites sur laplumedefeu.com. Les blogs de voyage sont légion. Il semble y avoir un énorme engouement pour le voyage et surtout pour l'évasion, comme une urgence à réinventer le quotidien. Fertile, fuite porteuse et créative, on n'a pas fini d'en entendre parler. Le tour du monde.
C'est une réflexion que j'ai depuis un certain temps, depuis que je voyage, en fait. Je pense que voyager, c'est un art, c'est un acte de liberté. Ça nous amène à nous libérer de notre bulle, de nos contraintes matérielles, de notre dynamique sociale. Donc, j'encourage beaucoup de gens à faire des voyages pour ça. D'un autre côté, c'est aussi un défi. C'est une grande épreuve. Ça nous amène à nous retrouver face à nous-mêmes, face à nos peurs, à nos contraintes matérielles qu'on doit apprivoiser. Si on est, par exemple, à vélo, ben là, il y a toute la logistique de transport qu'on doit apprivoiser. Ça a commencé par un voyage que j'ai fait à vélo en Amérique latine. Je me suis vraiment inspiré de ce voyage-là. D'abord, j'ai fait pour moi-même. Je trouve que d'être en mouvement, d'être en voyage, c'est comme la nourriture de l'âme, carrément. Puis comme toute bonne nourriture, c'est bon à partager. Donc, je me suis dit, je vais faire une création à partir du voyage que j'ai fait. Je vais faire un montage un peu poétique, lyrique de l'aventure que je vais avoir vécue. Je me cache pas l'inspiration. Ceux qui ont vu le film sur Che Guevara, Carnet de voyage, je me suis vraiment inspiré aussi de ça. J'ai des inspirations très fortes aussi. Les Cités d'or m'ont beaucoup inspiré à voyager en Amérique du Sud. Donc, ça part beaucoup de... Je dirais d'un imaginaire qu'on a, puis ensuite, on met les pieds dans une nouvelle réalité qu'on connaît pas, puis là, on se met qu'est-ce qu'on fait justement? Est-ce qu'on se heurte à des obstacles ou on essaie de vaincre ces obstacles-là? Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me rendre quatre mois et demi, de me rendre à l'endroit où le Che est décédé, c'est-à-dire en Bolivie, dans le petit village de La Higuera. Donc ça, c'est un premier film que j'ai réalisé pour moi. C'est une première aussi exploit de faire un premier documentaire. Donc ça date déjà de quelques années. J'ai fait ça à l'âge de 25 ans. Puis ça s'appelle « Deux roues sur terre ». De faire à vélo, c'est encore plus exploit, c'est ça. De faire le trajet en autobus, ça aurait pas été aussi... Donc j'avais comme vraiment cette espèce d'esprit d'aventure de vouloir réaliser quelque chose, de vouloir se dépasser. C'est quelque chose que j'aime beaucoup transmettre. Puis quand je présente ce film-là aussi à des gens, je pense que ça titille quelque chose en eux, cet esprit-là. Donc je veux vraiment inciter les gens à voyager. Je me le cache pas non plus. C'est à chacun à faire son propre voyage, à découvrir c'est quoi la petite voix qui lui parle à l'intérieur. Le principal ingrédient, je pense, pour les voyages à vélo, les gens qui en font, ils vont être d'accord là-dessus, c'est le temps. Savoir se donner du temps pour faire ça. C'est sûr qu'on part pas pour une expédition comme ça en une semaine de vacances. J'ai passé vraiment une année, même deux années après pour faire un produit avec ça, faire un film qui a passé dans les festivals et tout ça. Donc, je te dirais que c'est au-delà de mes espérances. C'est juste de dire, on se fixe un point dans l'avenir. On essaie de le viser. C'est sûr qu'au jour le jour, des fois, on peut avoir l'air un peu gauche. Ça arrive des fois qu'on pogne des crevaisons, des choses. C'est jamais aussi fluide qu'on peut l'espérer au départ. C'est sûr que ça, ces moments-là, on les oublie après quelques années. Mais c'est aussi une leçon de vie dans le sens où quand on avance vers un objectif, c'est un peu comme la fable de la lièvre et la tortue. Si on est persévérant, quand même qu'on fait 10 km dans une journée parce qu'il nous est arrivé des pépins et tout ça, mais au moins on a avancé dans la direction qu'on s'était fixée, puis on n'a jamais dévié de cette direction-là. Le fait d'avoir fait un film avec ça aussi, c'est sûr que ça amène des moments que je peux partager. C'est des images qui ressortent aussi, qu'on peut mettre en relief. Il y a tout dans la narration, tout le vécu aussi que j'ai pu accumuler, les tressaillements intérieurs, justement les émotions, le côté émotionnel aussi joue beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est assez confrontant. Ben, je garde contact encore avec quelques personnes. C'est sûr que l'aspect contact humain dans un voyage comme celui-là, pendant 4 mois, on peut s'imaginer que en faisant, disons, 50 km par jour, 60 km par jour, c'est spécial parce qu'on rencontre des gens différents à chaque jour. Donc, on n'est pas vraiment, contrairement à la sédentarité où on a un cercle social, on a un cercle d'amis, on est habitué à aller voir à tous les jours ou une fois par semaine. Il n'y a vraiment aucune régularité. C'est vraiment cette espèce de flot continu de nouvelles rencontres qu'on apprivoise. Donc, on apprend vraiment on a vraiment une tranche d'humanité vraiment exceptionnelle. Donc, j'ai des intentions d'aller faire un voyage en canot bientôt, en fait, au mois de juillet, avec des Autochtones et puis des gens qui s'intéressent à des rapprochements entre les peuples. Donc, l'idée, c'est vraiment de vivre du territoire, de vivre à la façon de nos ancêtres, avec la pêche, avec les savoir-faire traditionnels, de savoir si on peut vraiment se mettre au défi, est-ce qu'on peut... C'est sûr qu'on a quand même accès aux moyens modernes, donc on va doser avec la technologie, c'est sûr qu'on va en utiliser aussi. Mais l'idée, c'est vraiment cette espèce de retour aux sources, puis de revenir à un mode de vie nomade, d'être sur l'eau, de voyager tous les jours, de vivre du territoire, de manger ce qu'il y a sur le territoire. Enfin. Le concept aussi, l'idée avec l'émission de radio, je suis ici parce que je sens que j'ai peut-être un rôle à jouer en amenant des chroniques vagabondes à l'émission Aube. Donc, je me suis mis ça comme défi, comme proposition. Ça va être peu importe en fait où est-ce que je vais. Si je vais en Outaouais, ça sera dans le parc de la Vérendrye. Il y a sûrement des choses qui vont se passer aussi cet été en Gaspésie. Donc, j'ai l'intention de faire un peu le tour des régions du Québec. Donc, j'ai voyagé quand même beaucoup à l'international, mais je trouve qu'on a vraiment une province, un territoire qui est riche aussi. Donc, j'adore faire des liens entre les personnes, les projets aussi qui se passent dans différentes régions. Donc, je pense que je peux être un espèce de messager entre toutes ces personnes-là. On m'a déjà dit avant que dans l'ancien temps, il y avait des gens qu'on appelait les quêteux. Quêteux, c'était pas nécessairement des gens comme on voit aujourd'hui dans la rue qui ont leur petit char, qui demandent du petit change, mais c'était vraiment des gens qui voyageaient d'une maison à l'autre, qui voyageaient d'un village à l'autre. Puis chaque famille même avait son banc de quêteux, donc pour permettre à ces gens-là de dormir. Puis ils étaient un peu des messagers, c'était des gens qui... il n'y avait pas des journaux dans ce temps-là, donc c'était ceux qui amenaient les nouvelles de ce qui se passait dans d'autres contrées. Donc je pourrais être le nouveau quêteux des temps modernes, des temps postmodernes. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les auditeurs.
Bonjour, ici Baha de chez Coco. Comment peux-je vous aider?
Bonjour, Baha. C'est que j'ai un problème avec ma facturation. J'ai pris 2 trousses magiques durant mon voyage aux États-Unis puis en Europe, mais je me retrouve quand même avec une facture de 928 $, c'est-à-dire l'équivalent de mon prix de billet d'avion. OK, je vais ajouter des détails et des verbes convaincants.
Je vous transfère.
Super.
Bonjour, ici Naroud de chez Coco. Comment puis-je vous aider?
Bonjour, Naroud. C'est que j'ai un problème avec ma facturation. J'ai pris 2 trousses magiques durant mon voyage aux États-Unis et en Europe. J'ai fait tous mes suivis, c'est-à-dire 5 appels à Coco en 2 semaines, en fait. Et c'est d'autant plus troublant que c'est plus d'appels à Coco qu'à mes fils durant mon voyage. Mais je me retrouve quand même avec une facturation de 928 $. OK. Ben, je vais te donner d'autres détails. Brève argumentation, incluant des petites notions de marketing et d'autres verbes convaincants. Oui, Coco?
Ne quittez pas.
Attente de 45 minutes. Musique entraînante et libre de droit, interruption de communication. Asti, il me floche. Face de juron. Je rappelle.
Bonjour, ici Naoud de chez Coco. Je suis désolé d'avoir échappé à la communication et de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Je dois effectuer les calculs. Vous permettez que je vous place en attente?
Non. Je déteste ça. Pouvez-vous me rappeler quand les soustractions seront finies, s'il vous plaît?
Je préfère vous garder en ligne si j'ai des questions.
Ah, OK, fait que c'était pas une question à choix de réponse. D'accord. C'est bon. Attente de 45 minutes. Pas de questions. Musique d'aliéné libre de droit. Hostie, bis. On me raccroche la ligne sans putain de retour d'appel. J'ai écouté toutes les petites playlists. J'ai encore un bill de 928 $. Je chaud à l'oreille. J'ai plus de ressources et de grossièreté. Et j'ai la conviction profonde que même si les jeunes qui bossent sont bébés smart, nos compagnies de télécom sont des enfoirés.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, vous avez entendu quelques idées d'Aurélie pour voyager autrement.
Une entrevue avec Guillaume Gérard, notre quêteux des temps modernes qui bourlingera à travers l'arrière-pays en quête d'histoire à raconter.
Et l'histoire du petit village sans âge.
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
À venir dans la deuxième partie, l'art de voyager comme un parfait gentleman,
récit de voyage fabuleux,
vivre dans une valise
et présentation du roman Écotopie d'Ernest Kallenbach. L'art de voyager comme un parfait gentleman. Tout le monde sait qu'un homme qui a pris goût au voyage dans sa jeunesse jette les graines d'un enthousiasme qui durera toute sa vie. Il y a peu d'occupations aussi enthousiasmantes qui ouvrent autant l'esprit ou éduquent davantage les jeunes gens que le voyage. Qu'il s'agisse d'une expédition au Jacaraganga, d'un voyage culturel nombré ou d'une escapade humide d'un jour à Hartlepool. La science nous apprend qu'une virée de 3 mois à l'intérieur des terres, dans des contrées n'existant sur aucune carte, développe davantage les lobes temporaux que 3 années passées à lire des publications sur le tourisme dans l'une de nos universités les moins cotées et qu'une jeune personne qui peut s'enorgueillir la 20aine passée de quelques solides années de voyage a 9/16 de chance, en plus de devenir un meneur d'hommes que son alter ego sédentaire. Les avantages du voyage sont indéniables. Tout jeune homme énergique rêve de parcourir le monde dans l'espoir de se faire un nom et de s'attirer toutes sortes d'ennuis, avant de rentrer chez lui plusieurs années plus tard pour publier des mémoires à faire dresser les cheveux sur la tête. Mais la réputation et la fortune ne sont pas les seuls bénéfices du voyage. Le voyage est l'un des meilleurs moyens d'accroître son bien-être et de combattre l'injustice d'une vie conjugale en dehors de la perfection.
Traditionnellement, un homme qui ne parvient pas au bonheur domestique passe la plus grande partie de sa journée au club, à traîner dans sa bibliothèque ou dans sa serre à planter des géraniums. Et à cet égard, le voyage peut être considéré comme une sorte d'abri de jardin transmigratoire. Tout à fait efficace, qui protège l'homme de bien des dangers que confère à son mariage une stabilité imméritée. Il y a eu un temps où un Anglais était partout le bienvenu à l'étranger, pourvoyant les autochtones en présents tels que des perles, des miroirs et des rubans aux couleurs vives, les soulageant aussi du fardeau d'avoir à construire leur propre dépôt de minerais et ne demandant rien en retour. Désormais, au lieu de suivre la grande tradition britannique consistant à parcourir le globe en l'arpentant, en civilisant les nations et en grimpant au sommet de toute dénivellation suffisamment intimidante, la jeunesse semble considérer la planète comme s'il s'agissait d'un parc d'attractions sur mesure. Faire la fête jusqu'à l'aube, nager avec des dauphins et orner sa chevelure de colifichets, incruster sa chair d'aiguille, transporter ses affaires dans des sacs à dos semble être de mise aujourd'hui. Il devrait être évident pour tout le monde qu'attacher les articles de voyage dans son dos comme un sherpa ordinaire peut gravement endommager la tombée d'une veste en lin bien coupée. Mais je devine que cela n'est que de peu d'importance pour les backpackers, comme on les appelle, qui s'attifent de polyester aux couleurs vives, se repaissent de fermetures éclair dernier cri, de velcro et de boutons pression. À l'inverse, il est rare de voir le voyageur plus âgé faire mieux. Les groupes voyageant en autocar, déterminés à visiter tous les sites, effrayés à l'idée d'éventuels dérangements intestinaux, se cramponnent à un itinéraire très rigide, refusent de sortir des sentiers battus et évitent tout contact avec les autochtones et la nourriture locale. Les voyageurs plus âgés, avec leur panier repas et leur liste pré-remplie, pourraient tout aussi bien rester chez eux et passer leurs dernières années à jouer au bingo ou à regarder les programmes sur leur poste de télévision. Les lecteurs accablés par le caractère anodin de la littérature de voyage contemporaine méritent un nouvel abrégé, varié de ses auteurs classiques. J'espère sincèrement que les extraits suivants feront naître en vous l'envie de voir le monde, que vous ne pourrez satisfaire que si vous décollez de votre fauteuil et que, ramassant votre grosse valise en cuir et votre parapluie, puis revêtant votre veste de chasse préférée en tweed, vous vous mettez en route pour un grand voyage de découverte.
C'était un extrait de L'art de voyager comme un parfait gentleman par Vic Darkwood.
Leur bateau à quai est devenu roulotte en or. Ils ont laissé aller lentement le long voyage. C'est dans les ruines et le sable de San Pedro, petite communauté dissimulée au bord de la Méditerranée espagnole, que l'histoire débute. Il nous a d'abord fallu trouver la route qui y menait. Peu de gens étaient au courant de l'existence de cet endroit. Nous sommes arrivés à la tombée de la nuit, épuisés par la longue marche à travers la montagne. Et puis, au lever du soleil, il y avait cet heureux saltimbanque perché sur un mur de pierre que je n'ai plus quitté pour les trois saisons à venir. Trois étés éternels. Il allait me conduire à travers terre et mer dans un monde réconcilié entre enfance et sagesse. Bel oiseau, tu voleras si haut que la terre des hommes ne te paraîtra plus jamais la même. Avec mon nouvel ami, je suis monté vers le nord, jusqu'aux Pyrénées françaises, jusqu'à la Goutte d'eau, ancienne gare de train habitée par des gens qui souvent ne font que passer. J'y ai fait la connaissance de grands géants un peu fous, provenant des quatre coins de la terre, avec des trous dans les poches. Tout de suite, je les ai aimés pour toujours. Rassemblés autour d'une carte, ils parlaient d'un rêve fabuleux. Tracer ensemble un chemin vers l'est, pays du soleil levant. Le lendemain, ils ont décidé de rafistoler de vieux vélos. Nous allions rouler sur la terre. Il fallait voir ce chantier de construction. Il fallait voir prendre forme ces engins de paix qui allaient nous mener jusqu'au bout du monde. Puis, au printemps, nous étions 20 et nous sommes partis pour de vrai, un matin frissonnant. Une joyeuse caravane musicale s'en est ainsi allée de village en village, de frontière en frontière. Nous avons senti la route passer lentement sous nos pieds. Chaque jour, nous étions un peu plus loin. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter les kilomètres pour mieux voir défiler les visages devant moi. La nuit, nous dormions sous de vieux platanes, paisibles et heureux. En chemin, on s'est inventé des milliers d'aventures. On s'est aimé un peu plus. Et on est devenus plus nombreux aussi. On s'est reconnus à travers les gens, souvent sans dire un mot, parce qu'on parlait pas la même langue, mais avec ce cœur sur la main et cet air sur le bord des lèvres qui venait apaiser nos joues. On n'avait qu'un vieux chapeau pour manger, mais avec des tours de magie qui ont décroché la lune. Bien sûr, ce n'était pas toujours beau. Il y eut des misères, des peurs, des désolations. Mais je savais déjà qu'elle était comme ça, la vie. Puis un matin, je me suis réveillée et j'ai décidé qu'il était temps de rentrer. Mais je n'oublierai jamais. Et je sais que c'est possible, malgré la guerre, le racisme, la pauvreté, le mensonge. Je sais que c'est possible de parcourir la terre, notre terre. J'y crois pour toujours à cette générosité de la vie, à cette liberté, au voyage dépassant toutes les frontières humaines et mentales.
Depuis qu'elle est toute jeune, ma petite sœur, elle tient pas en place. On aurait dit que le monde était trop petit pour elle. Si moi, j'ai toujours eu la tête ailleurs, elle, c'est les pieds. Hier au Mexique, aujourd'hui en Allemagne, puis demain, une autre aventure. Je m'ennuie d'elle. Je pense à elle souvent. Parce qu'elle n'est jamais là, tu sais, elle est toujours partie. Mais en même temps, elle est toujours dans mon cœur, puis je sais que je suis toujours dans le sien.
En voyage à Querétaro, à Santiago de Querétaro, au Mexique, en Amérique du Nord. Je sais vraiment pas pourquoi je me suis mis à voyager, mais maintenant que j'ai commencé, j'ai vraiment pas l'intention d'arrêter. Je pense que c'est ça, c'est qu'il faut pas que tu t'y mettes, c'est un peu comme une drogue. C'est comme un autre univers, tu décroches tellement, c'est comme le parallèle de toute petite chose devient vraiment merveilleux puis le fun parce que tu te rends compte que tu le côtoies comme tu l'aurais jamais côtoyé. Voyager, ça te fait découvrir une nouvelle indépendance, même si j'aime vraiment ça, habiter chez mes parents. Je pense que j'ai quand même vieilli. Ça t'apprend une autonomie. Mais comme la fois que je suis partie 3 mois en Europe, on était deux seuls au monde, on connaissait personne, puis on n'avait personne pour nous aider. Là, si on avait un problème, mais il a fallu qu'on se débrouille. J'ai décidé de partir en Europe parce que je trouvais que c'était un endroit qui est facile à voyager. J'ai aussi décidé de partir voyager pendant 3 mois parce que j'étais tannée d'aller à l'école. Je ne savais pas quoi penser. Là. Je me disais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es quand même jeune, tu as le temps de réfléchir. On est atterri à Nantes, sans aucune auberge réservée. Donc, la seule chose qu'on avait, c'est un billet d'avion aller-retour et un sac à dos. T'as même pas besoin d'avoir d'argent, t'as même pas besoin d'être organisé, t'as même pas besoin de savoir parler la langue. Puis tu peux te promener partout, là. Puis c'est ça qu'on a fait, je veux dire, on a dormi dans des couloirs de blocs appartements. Les plus gros soucis que tu pourrais avoir ici sont rendus tellement minimes parce que c'est merveilleux qu'est-ce que tu vis. Tu marches dans la rue, puis tu découvres de quoi être complètement différent. Moi, je déteste le mot choc culturel parce que je trouve que c'est poussé. Puis moi, je suis arrivée en Asie, puis là-bas, ils ont des manières différentes comme nous. Quand on dit « viens » à quelqu'un, on fait un signe de revenir vers nous. Puis eux, quand ils disent « viens », ils font un signe de... Nous, notre signe, c'est comme des crises. Mais eux, c'est « viens ». Fait que là, tu comprends vraiment pas qu'est-ce qu'ils veulent. Donc là, tu veux prendre un bateau. Puis là, il y a un bateau qui arrive, mais personne sait il va où et il arrive de où. Puis là, il y a une file, puis là, il y a du monde partout. Fait que là, tu sais pas si c'est ton bateau. Puis là, tu t'avances, puis là, lui, il est là avec son signe de main. Fait que là, t'es là de quel côté faut que je m'en aille? Tu veux-tu que je vienne ou tu veux que je parte? C'est la première fois que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Fait que c'est les normes, c'est aussi les façons de vivre. Puis tu te rends compte que c'est pas nécessairement ta façon de penser qui est meilleure que la leur. Hein. Le fait juste de côtoyer des gens différents qui fonctionnent pas comme toi, plus t'en côtoies, moins t'essayes de leur rentrer dans la tête que ta façon de faire, c'est la meilleure. Je trouve que tu t'ouvres aussi beaucoup sur le monde. T'as comme une ouverture d'esprit sans fin. T'es ouvert sur tout. T'es ouvert sur la bouffe, t'es ouvert sur les gens, t'es ouvert sur la culture, t'es ouvert sur la religion. T'es prêt à faire tous les efforts personnels pour t'adapter à ce que tu vis. Comme ça, tu vas encore plus en profiter. Fait que, qu'est-ce que ça change? Ça te change de A à Z. Ça te change... C'est merveilleux, voyage.
Ouais, Marie? Ouais, Marie, c'est Guillaume. Ouais, Marie, je m'en viens. Je m'en viens de voir, on part.
Des solutions économiques existent pour vivre dans sa valise au quotidien, sans trop dépenser en restaurant et en hébergement dans les circuits touristiques. Les éléments qui composent son véhicule, son sac à dos, son vélo doivent répondre à tous les besoins auxquels on pourrait faire face tout au long de son périple. Hygiène, papeterie, réparation, premiers soins, divertissement. Le peu que l'on a est énorme. Chacun de ces objets que l'on décide d'apporter doit être soigneusement sélectionné et surtout pesé. Dans un sac à dos, par exemple, nos épaules et notre dos écopent de tout notre attirail. Tandis que dans un véhicule, les objets inutiles finissent par nous embourber et rendre les voyages désagréables. La qualité des objets choisis, par exemple, un bon couteau suisse permet de remplacer la majorité des outils nécessaires. Une mini-tablette ou un grand cellulaire permet d'avoir à la fois de la lecture, un moyen de communication, une multitude de jeux à portée de main, des films à écouter. Les ressources sont abondantes autour de nous à qui sait se débrouiller. Que ce soit une bibliothèque, un commerce, un passant pour nous offrir des indications ou encore un coup de main. Avoir des assurances est intéressant dans certains cas, mais lorsque l'on perd son sac à dos ou son véhicule, une assurance compte pour très peu. Si le toit de votre véhicule le permet, installer des panneaux solaires peut s'avérer une façon efficace d'accéder à l'autonomie énergétique, une fois votre véhicule arrêté pour un certain temps. lorsque l'espace le permet, dans un camion par exemple, l'utilisation d'un mini poêle à bois est intéressante dans la mesure où vous ne logez pas en ville et que vous avez assez d'espace pour transporter du bois de chauffage dans vos déplacements. On peut aussi équiper son véhicule d'électricité, le tout relié à un écrêteur, lui-même branché à un long câble de plusieurs dizaines de mètres. Cela permet de se brancher à tous les endroits où il y a une prise électrique extérieure, que ce soit une machine distributrice, à une prise pour brancher une auto l'hiver ou encore une prise électrique de maison. S'alimenter convenablement est un défi de taille sur la route. Certes, les crues d'hiver ont la vie facile, mais qu'en est-il de tous ceux qui ont besoin d'une source de chaleur pour faire cuire leurs aliments? Un des grands défis du voyageur est son autosuffisance vis-à-vis du circuit touristique. Le but est donc de développer des recettes faciles, nutritives et surtout variées. Une multitude de brûleurs existe sur le marché avec pour chacun un type de carburant plus ou moins facile à se procurer dans les pays visités. Le poids et l'encombrement du carburant est l'élément numéro un à considérer dans un voyage non motorisé. En tant que voyageur sensibilisé, la responsabilité de se ramasser est primordiale. La nourriture humaine est aussi une garantie d'avoir de la visite indésirable pendant la nuit. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas établir sa cuisine trop près de sa tente. On peut aussi hisser sa nourriture dans les arbres pour prévenir les prédateurs, mais parfois, vos amis ont les griffes longues. Apporter son recyclage dans les grands centres urbains, qui eux sont dotés d'un système de recyclage, est une solution intéressante pour celui qui possède l'espace pour les conserver adéquatement.
Vivre dans une valise.
Pour goûter à l'essence d'une région visitée, il est intéressant d'emporter avec soi son vélo. Le vélo permet un contact plus direct avec les habitants et permet aussi de ne pas regarder le pays au travers d'une vitre d'auto. C'est le véhicule le plus économique d'énergie et le plus performant d'un point de vue écologique. De plus, il est très facile à réparer. En voiture, le paysage progresse trop rapidement. Un arbre devient une forêt, un lac devient une étendue d'eau. Tandis qu'en vélo, on peut goûter à l'essentiel de la région et s'arrêter où on veut. L'idée de voyager à bord d'un vélo pliant en Europe, couplée à l'utilisation du train, que ce soit comme véhicule d'accompagnement ou comme principale monture, m'apparaît dans tous les cas assez optimale. Lorsque l'on commence à arpenter du pays, on se fait rapidement de nombreux contacts et des connaissances. Le voyageur est souvent le visiteur, celui qui va. Il faut apprendre les règles de l'hospitalité. La personne qui se déplace vit beaucoup dans le partage. De nombreux sites existent pour l'hospitalité des voyageurs. Le site Couchsurfing est une référence pour les backpackers, mais il en existe une multitude de plus spécialisés. Par exemple, le site Warm Shower pour les cyclo-voyageurs.
En bas, d'un bord, pis de l'autre, le long de la Saint-Laurent. Jour, je monte la côte, pis le soir, je la redescends. Ça qui fait chaud, Fred. C'est moi le roi de la marchette.
Un aspect important lors de l'aménagement d'une monture est son aspect multifonctionnel. Si on aménage un véhicule en vue d'une utilisation unique, on se retrouve tôt ou tard avec un besoin de changement que l'on ne saurait combler. Moins les éléments du véhicule sont fixes et plus facile est l'adaptation à des situations imprévues. Lors de l'acquisition d'un véhicule et de sa transformation en maison sur roues, je conseille de faire un plan de travail réaliste et de s'informer des prix des différents matériaux avant l'achat du véhicule, pour bien cerner le coût total de l'investissement. L'hiver est, selon moi, la plus belle saison pour voyager. Extérieur au circuit touristique, en contact direct avec les locaux, en dehors de l'effervescence fiévreuse de certains touristes pressés, des gros tarifs et des forfaits tout inclus. C'est l'occasion de prendre son temps dans les musées. C'est la chance de parler avec des personnes qui n'auraient pas le temps en été. C'est une approche du voyage qui est beaucoup plus personnelle, mais qui comporte son lot de défis à relever. Pendant la vie de nomade, maintes possibilités se présentent en cours de route. On doit faire des choix et certains de ces choix nous amènent sur des sentiers peu ou pas fréquentés. C'est la bohème. On doit toujours garder en tête notre destination, mais aussi et surtout être prêt pour une remise en question et un changement de cap en cours de route. Posséder un point d'ancrage où il est possible de laisser ses affaires pendant la durée du voyage nous évite de payer un loyer inutilement. En espérant que vous sachiez tirer parti du meilleur que votre voyage est susceptible de vous apporter. Et puisque les déplacements humains à l'échelle de notre planète se sont rendus à ce point étendus, que dans quelques années, il sera sûrement possible d'aller faire un petit séjour en apesanteur, d'avoir un chalet sur la Lune ou encore une résidence secondaire sur Mars, je continuerai pour ma part à arpenter, humblement, tel un Bernard l'ermite du cyclotourisme, notre plancher des vaches natal.
Texte et narration, Philippe Laramé. Tiré de Aube, le recueil de solutions.
Une chance que j'aime encore la vie, malgré toutes les fois que je m'ennuie. Ah ouais, le monde fucké partout, je vais m'en retourner chez nous. Si je suis blasé, ben tant mieux, ça me donne le goût de me sentir mieux.
Matin sur le bord de la vin, je pousse pour descendre à Gaspé.
À Gaspé, à Gaspé.
Il fasse la bosse à la vin, je pense à rien, je pense à toi. Les chars passaient à toute vitesse, moi je chantais en me grattant les fesses. Di-di-di. Volkswagen venait d'arrêter, j'étais pogné pour embarquer.
Embarquer!
La fille alla jusqu'à Mont-Louis, j'ai dit c'est cool, j'y vais moi ici. Fait qu'on est partis toutes les deux, l'asphalte s'en crissait sous les pneus. Di-di-di. Moi, drette à pied, elle dans son char. Je me suis retrouvé tout seul sur le chemin à marmonner mon petit refrain.
Un livre écrit par Ernest Kallenbach dans les années 70 est le nom donné à ce nouveau pays où règnent les idéaux écologiques les plus poussés du monde. Ayant fait sécession des États-Unis dans les années 80, ce pays comprend les États de la côte ouest, soit le nord de la Californie, l'Oregon et l'État de Washington. Depuis les 20 dernières années, les gens de l'extérieur n'ont que des rumeurs sur ce qui se passe réellement en Écotopie, ayant coupé tous les ponts avec son ancien voisin. William Weston, un des meilleurs journalistes de son époque, ayant couvert plusieurs événements internationaux, a reçu les autorisations nécessaires pour enquêter sur ce nouveau pays. À son arrivée, la vision du narrateur est nettement sarcastique. Au fur et à mesure qu'il découvre les améliorations radicales au niveau de la société, de l'environnement et des rapports humains, on perçoit un changement dans son attitude. Tout au long du récit, il vit une profonde remise en question de ses valeurs, de ses principes et de ses idéaux. Par le biais de son journal de voyage, dans lequel il compile ses impressions et des articles qu'il écrit pour son journal, le personnage nous livre une vision claire et juste d'un pays possible. L'écotopie est un défi au régime américain, basé sur le culte du progrès, les bienfaits de l'industrialisation et l'accroissement du produit national brut. Dans l'écotopie, il n'y a pas de poubelle, seulement un système de recyclage et de compostage très performant. L'industrialisation est contrôlée par le bon sens collectif, et un objet ne peut être créé que si un comité de 10 personnes réussit à le réparer. Toutes les décisions sont prises en tenant compte du coût social d'une telle décision. Le système de transport en commun est nationalisé et bien sûr gratuit. Ce livre propose donc des solutions viables, non seulement aux problèmes de pollution, mais aussi aux enjeux politiques et socio-économiques de nos sociétés actuelles. C'est aussi un roman visionnaire qui contient en soi beaucoup de solutions applicables à notre actuelle crise environnementale. Un livre à lire, des solutions à appliquer.
Écotopie, un livre de Ernest Kallenbach, un texte de Philippe Laramé tiré de Aube, le recueil de solutions. Ce qui conclut le quatrième épisode de Aube.
Toutes nos émissions sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via iTunes, laplumedefeu.com ou via SoundCloud.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci. Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez deux secondes pour nous offrir vos commentaires, nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Jean-Baptiste Gardarin, Annick Daignault, Aurélie Suberchico et Caroline Legault.
À la co-réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.